La première. La première. Entrée sans frapper.
À l'occasion de la sortie chez Flammarion de La philosophie ne fait pas le bonheur et c'est tant mieux, nous recevons ce matin d'entrée sans frapper le chroniqueur hein, au Monde, au Point, aux Échos et philosophe Roger Paul Droit. Bonjour Roger Paul Droit.
Bonjour.
Vous êtes en direct avec nous de la radio suisse romande à Paris.
Bonjour Roger Paul Droit. Alors vous êtes philosophe, écrivain, chroniqueur au journal Le Monde, comme je viens de le dire. Votre dernier ouvrage, La philosophie ne fait pas le bonheur et c'est tant mieux, dénonce une forme de discours ambiant qui se répand de plus en plus dans les médias, dans les livres, dans les magazines et sur la place que devrait occuper la philosophie dans la quête du bonheur. Et vous dites que le bonheur est devenu aujourd'hui la grande illusion de la philosophie. En témoignent d'ailleurs certains ouvrages d'André Comte-Sponville, Michel Onfray, Luc Ferry, et vous dites quelque part que cette petite chanson qu'on distille sur les moyens d'accéder au bonheur par la philosophie est fausse et même dangereuse. Alors c'est un livre, Roger Paul Droit, vous le soulignez d'entrée de jeu, qui est né d'une colère. Qu'est-ce qui vous a mis à ce point en rogne ?
Ce qui m'a mis en rogne, il y a aussi des arguments dans le livre, il y a à la fois de la colère et puis quelques démonstrations historiques et philosophiques, c'est de constater que de façon progressive, mais de plus en plus submergente, si j'ose dire, depuis une bonne quinzaine d'années maintenant, s'est installée cette idée que l'objectif majeur de la philosophie, son rôle principal, ce qu'elle doit faire et son utilité serait de nous rendre heureux, de contribuer au bonheur. Alors, j'ai rien contre le bonheur, c'est pas un livre qui vous dit « soyez malheureux, c'est mieux », ce qui serait absurde, mais c'est un livre qui essaye de critiquer et de marquer son désaccord envers ce qui me semble être une dérive de l'usage de la philosophie. À mon avis, elle sert d'abord la philosophie à être lucide, à essayer de défaire nos illusions, à essayer de comprendre avec des concepts, le monde où nous vivons, et cela, elle ne sert pas à ce bonheur 2015, qui est finalement, regardez les magazines, regardez ce qu'on nous dit du matin au soir, une sorte de bien-être un peu anesthésié. Pas de stress, des petits plaisirs, il faut être heureux partout de façon assez light. Finalement, on serait heureux au lit, heureux dans son assiette, heureux dans son travail, heureux dans ses loisirs, dans sa famille, dans ses vacances, dans son sommeil, dans son corps, enfin bon. Et là, il y a là quelque chose qui est évidemment tout à fait respectable.
Mais aussi tout à fait effrayant.
Mais tout à fait illusoire et tout à fait manipulateur plutôt. C'est-à-dire qu'il me semble que ce bonheur formaté, façonné, permanent est en fait un contrôle social, une manipulation, une manière de vous dire voilà comment vous devez vivre du matin au soir en étant finalement débarrassé de tout ce qui serait vraiment un peu négatif, un peu gênant, un peu des obstacles, un peu des difficultés. Or là, il y a non seulement une illusion, mais il y a quelque chose qui est tout à fait le contraire et de la pensée et de la vie humaine et finalement de la réalité qui est faite bien sûr de joie, de plaisir, de jouissance, d'orgasme, d'amitié, de beauté, mais qui est faite aussi de misère, de crasse, d'angoisse. Bon, et donc, ce qui m'intéresse, moi, c'est les opposés finalement de l'existence, c'est ce patchwork de bon et de mauvais, pour parler vite. Et je m'attendrais à ce que mes collègues philosophes, dont certains sont des amis et d'autres, de toute façon, il n'y a rien dans ce livre, comme vous l'avez vu, qui soit méprisant. Enfin, je n'attaque pas des personnes, mais je marque un désaccord avec l'image d'ensemble qui est finalement que la philosophie doit nous rendre heureux, c'est-à-dire contribuer à ce faux bonheur 2015, au lieu de le dénoncer. Je m'attendrais à ce que, face à cette espèce de manipulation, eh bien, mes collègues philosophes poussent des cris de colère, expliquent que ça ne va pas, etc. Et quand je vois qu'ils apportent de l'eau à ce moulin-là, alors je suis pas content. C'est ça le point de départ du livre.
Oui, parce que vous êtes carrément en train de dire qu'aujourd'hui, il y a certains philosophes, finalement, qui sont pas très loin de ce qu'on peut lire dans une certaine littérature du développement personnel, dans les publications de certains magazines, etc., finalement.
C'est-à-dire qu'il y a une sorte, de récupération, mais en tout cas d'entraînement qui fait que l'on reprend, et je voudrais, il faut parler aussi un peu de l'Antiquité, parce que les philosophes de l'Antiquité, Épicure, Sénèque, Socrate lui-même, donnent explicitement à la philosophie comme but de rendre heureux. Alors on peut dire, mais attendez, vous êtes en train de vous tromper, et puis tous ceux qui veulent aujourd'hui relire ces philosophes de l'Antiquité pour les adapter à notre temps et faire de la philosophie...
Oui, parce que vous n'allez quand même pas nous dire qu'Aristote, Socrate, Platon, tout ça, c'était trompé, Roger Paul Droit.
Mais non, je ne dis pas... Enfin, ils peuvent se tromper sur certains points, ce n'est pas des oracles, hein. Mais, et il est normal de les discuter ou de les critiquer, mais il est indiscutable, et je le rappelle avec une quantité d'exemples, que le but majeur de la philosophie antique est le bonheur. Le problème, c'est que ça n'est pas le même bonheur que notre bonheur 2015, et que cela, personne ne nous le dit dans ceux qui aujourd'hui veulent remettre leurs pas dans ceux des philosophes de l'Antiquité. Quelles sont les différences ? Eh bien, le bonheur des anciens, celui d'Épicure ou celui, même si c'est très différent, des stoïciens par exemple, c'est essentiellement un bonheur de l'individu qui comprend sa place dans un tout. Marc Aurèle, si vous voulez, l'empereur stoïcien, il dit bah, finalement un homme est heureux s'il est comme un musicien dans un orchestre qui comprend quelle est sa partition, quel est son rôle. Donc l'inclusion, soit dans la cité, soit dans le cosmos, ça c'est un élément essentiel du bonheur des anciens. Pour nous, ce n'est pas du tout le cas. Où c'est très marginal. Ouais. Personne ne vous dit, c'est un bonheur individuel, c'est un bonheur personnel, c'est un bien-être pour soi, et pas tellement en prenant conscience de sa place dans une totalité. Et puis, il y a aussi le fait que le bonheur des anciens, il est lié à la figure du sage, il est lié à cette idée que, c'est une idée de l'Antiquité qui n'est plus la nôtre, quand on connaît quelque chose à fond, même une science comme la géométrie par exemple, alors on est transformé moralement. Celui qui est savant devient sage par sa science. Il y a une sorte de couplage, si vous voulez, entre connaissance et morale.
Ouais. Alors évidemment, je vous interromps, Roger Paul Droit. C'est vrai, il y a plein de choses, évidemment.
Les philosophes, il faut les interrompre, parce que sans ça,
vous êtes à la radio suisse romande à Paris, donc on ne vous voit pas, on n'a pas de contact visuel. Mais alors, juste, vous évoquiez évidemment les anciens et Épicure. Il y a un aphorisme d'Épicure qui dit « La philosophie est le moyen souverain pour calmer la tempête de l'âme ». On va peut-être voir avec vous si justement c'est pas la voie royale aussi pour arriver au bonheur.
La première,
9h-11h,
Entrée sans frapper.
La philosophie ne fait pas le bonheur et c'est tant mieux, c'est paru chez Flammarion et c'est signé notre invité Roger Paul Droit.
Alors vous disiez, Roger Paul Droit, qu'il y a une différence assez marquée entre le bonheur des anciens, la vision du bonheur des Grecs et celui des modernes aujourd'hui. La vision du bonheur telle qu'on nous la présente aujourd'hui est plutôt liée à un épanouissement personnel, individuel, tandis que ce que vous nous expliquiez, c'est que finalement, chez les Grecs, il y avait une dimension beaucoup plus collective. Et peut-être bien qu'on devrait s'en inspirer finalement, Roger Paul Droit.
Oui, bien sûr, mais je crois qu'on ne peut pas purement et simplement remettre des toges, si vous voulez, pour parler vite, c'est-à-dire remettre nos pas dans ceux des Grecs. Bien sûr, il faut s'en inspirer, mais s'en inspirer veut dire construire quelque chose d'adapté au XXIe siècle à partir d'éléments qui peuvent être éventuellement empruntés à l'Antiquité, mais à condition de tenir compte aussi de tout ce qui s'est passé dans l'histoire depuis plus de 2000 ans. C'est-à-dire que l'image tout à fait importante historiquement, tout à fait respectable, très belle à étudier, j'ai moi-même publié des livres sur les philosophes de l'Antiquité, comme chercheur au CNRS, j'étais rattaché pendant 25 ans à un laboratoire d'histoire des doctrines de l'Antiquité, donc c'est un domaine que je connais un peu, mais je ne crois pas que nous puissions faire l'économie de l'histoire, c'est-à-dire nous imaginer que nous allons revenir dans l'Athènes du 5e siècle ou dans...
Et pragmatiquement, ça veut dire quoi, Roger Paul Droit ?
Pragmatiquement, ça veut dire que l'idéal de sagesse de l'Antiquité, il est important, il est à étudier, il est beau. Mais il a été, et c'est ce que j'explique dans ce livre, dans l'histoire, ensuite, il a été mis de côté par l'arrivée du christianisme en Europe. C'est plus la figure du sage qui a compté pour toute l'Europe médiévale, c'est la figure du saint. C'est-à-dire de celui qui va offrir son existence à Dieu, c'est qui va travailler selon finalement les directives de la révélation et pas celles de la raison humaine.
Vous voulez dire qu'à l'époque, à l'époque des anciens, à l'époque des Grecs, l'idée était de la possibilité de trouver le bonheur dans la sagesse au départ, c'était ça?
Tout à fait. Le sage est heureux en raison de sa sagesse, de sa vertu et de sa vie bonne. Ça, c'est quelque chose qui n'appartient plus non plus à notre bonheur 2015. Notre bonheur, c'est un bonheur du bien-être, de l'insouciance, sans inhibition, sans angoisse, une succession de plaisirs. Voilà, en gros, si vous voulez.
Est-ce que c'est un bonheur de moindre valeur par rapport à avant ?
Je crois que c'est un bonheur qui fait l'économie, ce bonheur 2015, qui fait l'économie du négatif. Il est en grande partie, je ne dis pas soyez malheureux encore une fois, mais il fait l'économie de la réalité de la vie. Moi, je pense bien plus, si vous voulez, comme Nietzsche. Ce n'est pas une idée que j'ai inventée, c'est une idée de Nietzsche que je crois très importante, que dire oui à la vie, c'est dire oui à tout. C'est-à-dire, c'est un seul lot, l'existence. Vous ne pouvez pas filtrer pour n'avoir que des moments agréables, que de belles choses. Vous pouvez aimer les belles choses, les poursuivre, les rechercher, mais vous devez aussi, en disant oui à la vie, accepter les saloperies, les coups durs, la trahison, la merde, enfin, pour parler vite. Voilà, et non pas en se résignant, non pas non plus en disant la souffrance est une bonne chose. Il faut combattre la misère, l'injustice, le mal, pour dire les choses simplement. Mais il faut savoir aussi qu'on ne s'en débarrassera jamais complètement et qu'un univers bisounours où tout le monde est gentil, heureux en permanence et être... Je pense à la chanson de Stéphane Escher que vous connaissez tous, « Déjeuner en paix ». Eh bien, évidemment, on a le droit de déjeuner en paix. Mais déjeuner en paix 24 heures sur 24, 365 jours par an, ça, c'est un mirage.
Mmh. Ouais. Alors, justement, vous disiez finalement, il faut quand on dit oui à la vie, c'est un all-inclusive, hein, avec le bien, le mal.
Exact, oui.
Alors, il y a toute une partie sur le rôle du hasard dans le bonheur, hein, dans votre livre « J'ai pas le droit ». Et c'est amusant parce que finalement, contrairement à ce qu'on a l'habitude d'entendre aujourd'hui, à l'Antiquité, eh bien, le bonheur ne dépendait pas de nous, directement, ça on l'a dit, mais il était le fruit du hasard. C'est vraiment tout le contraire d'aujourd'hui.
Oui. Ben, c'est-à-dire que dans bonheur, il y a heure. Heure, c'est un hasard. Un bonheur, étymologiquement parlant, c'est un bon hasard, comme un malheur, c'est une malchance. Et il y a cette idée antérieure à la construction des sagesses antiques, cette idée que finalement tout dépend du hasard, que notre destin a été tramé quelque part, ou bien si on ne croit pas à une providence et à un destin arrêté, les choses surgissent. Nous ne sommes pas maîtres de ce qui nous tombe dessus. Ça peut être des bonnes choses, ça peut être des mauvaises. Et on trouve ce lien du bonheur et du hasard dans toutes les langues, que ce soit en grec, tuké c'est le hasard, eutuké le bon hasard c'est le bonheur, c'est la même chose, mais ça marche aussi en anglais, happiness, qu'on vient d'entendre chanter, happiness c'est what's happening, c'est ce qui advient, ce qui arrive, et ce qui arrive de bon, et c'est pareil avec le gluck allemand, avec tout ça. Bon, y a à chaque fois cette idée dans le mot lui-même que le bonheur est lié au hasard, il n'est pas maîtrisable, il est contingent, ouais. Le malheur pareil. Alors bien sûr, contre ça, on peut se dire, attention, construisons des dispositifs antisismiques, essayons d'avoir une égalité d'âme, comme disaient les anciens, une sérénité, quelque chose qui va nous soustraire à ces hasards, qui amortit les chocs. D'accord, ouais. Mais il n'empêche que nous ne sommes pas les artisans de ce qui nous arrive dans l'existence. Et autant on peut essayer de tenir le choc face à de bonnes comme de mauvaises choses, autant, évidemment, ce qui nous advient, ça vient du dehors.
Parce que justement, vous dites qu'aujourd'hui, on est complètement immergé dans une lutte acharnée contre les mauvais tours du hasard. Et vous dites d'ailleurs que c'est l'une des grandes utopies actuelles, c'est l'anéantissement du hasard.
Voilà, mais je pense que ça, c'est un des fantasmes de toute notre époque, pas simplement dans le versant du bonheur personnel, mais ça se retrouve évidemment dans les big data, par exemple, ça se retrouve dans l'idée de corriger notre ADN, de modifier le génome humain, ça se trouve dans la maîtrise. Alors, évidemment, c'est une bonne chose de vouloir éviter des accidents, de vouloir réparer des erreurs de la nature, etc. Mais l'idée que l'on puisse éradiquer le hasard, tout